Et si, derrière la mondialisation, se dissimulait la synarchie ? Je ne plaisante pas. Il existe encore aujourd'hui des gens qui pensent que les apôtres du libre-échangisme absolu sont manipulés par une mystérieuse organisation internationale où l'on retrouverait les grands décideurs de notre planète et les représentants des trusts les plus importants. Bref, des synarques agissant dans le secret le plus total, tirant les ficelles des gouvernements et dont les citoyens ne seraient que les jouets. Pour les plus jeunes des auditeurs, ce mot « synarchie » ne doit rien dire. Et pourtant, la synarchie, mythe ou réalité, a jalonné une partie de notre histoire contemporaine. Par exemple, de la défaite de 1940 aux circonstances du retour du général de Gaulle en 1958. Il était donc tentant de demander à M. X, lui qui se fait fort de dévoiler l'envers de la vérité historique, si la synarchie existait vraiment et si, dans le passé, elle avait réellement joué un rôle. La question est d'autant plus d'actualité que la complotite est un fantasme partagé par un nombre grandissant de personnes. Aux États-Unis, par exemple, où certains ne sont pas loin de croire à la réalité des faits évoqués par une série comme X-Files. Mais en France aussi, si l'on en juge par l'étonnant et troublant succès du livre de Thierry Messan sur les événements du 11 septembre. Alors, le combat anti-mondialisation mené par José Bové et ses amis est-il un combat contre la synarchie ? La réponse dans un instant avec Monsieur X. Un dernier mot avant de l'écouter. Synarchie signifie, si j'en crois le dictionnaire, gouvernement de quelques-uns ou de quelques groupes.
Ben, je vous préviens tout de suite, je ne refuse pas d'évoquer le sujet de la synarchie, mais ça va nous mener loin.
Ben, prenons le temps qu'il faut. Et d'abord, là, vous... Croyez-vous à l'existence de la synarchie ?
Bon, écoutez, n'allons pas trop vite et ne mettons pas, s'il vous plaît, la charrue avant les bœufs.
Mais vous ne voulez pas répondre ?
Non, je ne me déroberai pas, je vous le promets, mais pour bien comprendre, il faut remonter dans le temps.
Jusqu'où ?
La fin du 19e,
ah,
pas trop loin.
Quand même. Une question avant. Est-ce que vous disposez d'informations inédites sur la synarchie ?
Je vous répondrai simplement que les services secrets, enfin tous les services secrets, se sont intéressés à la synarchie.
Donc elle existe ?
Je n'ai pas dit ça.
Ah, mais vous le laissez entendre, hein ?
Encore une fois, vous voulez aller trop vite.
D'accord, alors, allons à votre train. Et remontons à la fin du 19e siècle.
C'est un curieux personnage qui a inventé la synarchie. Un Français, le marquis Saint-Yves d'Alvèdre.
Un vrai marquis ?
C'est le Saint-Siège qui lui a décerné ce titre.
Le pape, donc.
Oui, et c'est d'autant plus étonnant que les théories de Saint-Yves étaient loin d'être catholiques, si je puis dire.
Un mot sur le personnage d'abord, non ?
Saint-Yves était le fils d'un médecin aliéniste. Il a eu une enfance assez perturbée et ses parents l'ont confié à un mystique qui avait fondé une maison d'éducation spécialisée, une sorte de couvent. Incontestablement, ça l'a marqué.
Ouais, il est lui-même devenu mystique.
Passionné d'ésotérisme, plutôt. Saint-Yves, qui a fréquenté tout ce qui comptait dans ce domaine très à la mode dans cette seconde moitié du 19e siècle, s'est rapidement persuadé qu'il appartenait à la caste des grands initiés.
Un peu fumeux, tout ça.
C'est évident. On y trouve dans ses écrits le fatras habituel, occultisme, alchimie, ordre de Templiers, loge paramaçonnique, etc. Quoi qu'il en soit, Saint-Yves, modeste rond de cuir au ministère de l'Intérieur, fait la rencontre d'une comtesse russe proche de la famille du tsar et l'épouse. La fortune de sa femme lui permet de se livrer en toute tranquillité à ses élucubrations politico-ésotéristes, qu'il épice d'ailleurs de quelques analyses scientifiques ou historiques.
Et ça aboutit à quoi tout ça ?
Saint-Yves publie plusieurs ouvrages sur ce qu'il appelle la synarchie, c'est-à-dire un pacte de gouvernement harmonieux entre les trois grands pouvoirs, l'économique, la politique et le religieux. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que je serais bien en peine de pénétrer la pensée ténébreuse de cet occultiste.
Mmh. Est-ce qu'il constitue, comment dire, une sorte de société secrète autour de lui ?
Je vous l'ai dit, la mode est à l'ésotérisme et des disciples séduits par ces théories qui prétendent expliquer toute l'histoire du monde le rejoignent. Des disciples qui se brouilleront naturellement après en se disputant l'héritage. On trouvera parmi eux des gens comme Papus ou Guénon. Ces noms diront certainement quelque chose à vos auditeurs qui s'intéressent à ce genre de questions.
Ouais. En tout cas, vous ne semblez pas prendre tout ça très au sérieux.
Vous avez raison, songez que Saint-Yves, qui affirmait d'être en contact avec des maîtres hindous, croyait en l'existence d'un lieu sacré, secret et souterrain, situé quelque part en Asie centrale. Il appelait ça l'Agartha. Seuls les initiés pouvaient y avoir accès. Et c'est de cet agartha que les initiés régulaient les sociétés humaines.
Ouais, effectivement.
Enfin, n'auriez pas trop. Après tout, parmi les premiers propagandistes de ce qui allait devenir le nazisme, il y avait aussi des illuminés qui croyaient à ce genre de sornette.
Oui, c'était la société de Thulé.
Et la légende des hyperboréens et des supérieurs inconnus chargés de guider les Ariens. Et dans les années 60, en publiant leur fameux Matin des magiciens, Bergier et Powell se perpétueront ces croyances en y ajoutant seulement un zeste de présence d'extraterrestres. Enfin, passons.
Ouais, je pense que c'est préférable.
Toutefois, il faut retenir des travaux du marquis d'Alvèdre l'idée qu'il existerait sur Terre une sorte d'organisation secrète plus puissante que les rois, les présidents et même les papes.
La conjuration permanente, en somme.
C'est ça. Et cette idée va ressurgir opportunément à chaque fois qu'on en aura politiquement besoin. Car si vous y réfléchissez bien, c'est très pratique. Avec la synarchie, on dispose là en permanence d'un bouc émissaire qui peut justifier les erreurs, les compromissions ou atténuer les responsabilités lorsqu'il y a lieu.
C'est la faute de la synarchie.
Exactement.
Alors, en France, quand commence-t-on à accuser la synarchie?
Le mot apparaît avec l'aventure de la cagoule.
Pendant la période du Front Populaire.
Oui, la cagoule, vous savez ce que c'est.
Bah oui, c'est un complot contre la République.
C'est ça, la cagoule, c'était un surnom donné par les journalistes. Son vrai nom, c'était le CSAR, Comité Secret d'Action Révolutionnaire. Et ces activistes d'extrême droite, monarchistes ou fascistes, ont bien failli, quoi qu'on en ait dit, réussir leur mauvais coup. Ils étaient organisés, puissamment armés, disposaient de complicité au plus haut niveau de l'armée.
On a même dit que Pétain en était.
Le maréchal était parfaitement informé des projets de la cagoule. D'ailleurs, dans son entourage immédiat, il y avait de nombreux cagoulards. Et Pétain n'ignorait pas que l'objectif final de ces conspirateurs, c'était de le porter au pouvoir.
Ce qui arrivera au terme de la défaite de 40.
Et ça me conforte dans ma conviction que Pétain n'est pas arrivé par hasard à la tête de l'État français. Mais nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas?
Oui, je m'en souviens parfaitement.
J'ajoute que les cagoulards bénéficiaient de la sympathie et du soutien des fascistes italiens, et peut-être même de l'Allemagne nazie, ça ne vous étonnera pas.
Mais quel est le lien entre la synarchie et la cagoule, alors?
Bon, on prétend alors, quand on découvre l'ampleur du complot, que la cagoule n'est que le bras armé d'une organisation clandestine qui s'appelle la synarchie.
Quel genre d'organisation?
Cette synarchie n'a plus rien à voir avec le pacte synarchiste prôné par Saint-Yves. Il s'agirait d'un mouvement secret qui rassemblerait des technocrates et des industriels désireux de mettre en place un gouvernement des élites.
Ouais. Vous employez le conditionnel, hein?
Naturellement, car on n'a pas fourni la moindre preuve de l'existence de cette synarchie.
Je viens, mais pour propager cette idée, il fait quand même bien s'appuyer sur quelque chose, des indices.
C'est certain. D'abord, derrière la cagoule, il y avait de grands industriels et banquiers qui finançaient largement les comploteurs.
Par exemple ?
Eugène Schuller, le créateur de L'Oréal. Ou encore Louis Renault, le maigre du Breuil, patron de Le Sieur, et quelques banquiers très célèbres. Mais enfin, peu importe les noms, c'était la fine fleur du monde des affaires qui subventionnait les cagoulards.
Ouais, parce qu'ils voulaient en finir avec le Front Populaire.
Et se débarrasser des communistes, évidemment. Les communistes qui, d'ailleurs, s'attaquaient alors bruyamment à ce qu'ils appelaient les 200 familles.
Les 200 familles qui possédaient la France.
C'est ça. Ouais. Alors de là, imaginez que ces 200 familles avaient conclu une sorte de pacte anti-républicain destiné à instaurer un régime fort, il n'y avait pas loin. Mais il existait aussi autre chose qui pouvait accréditer l'existence de la synarchie.
Allez-y, je vous écoute, là.
Dans certaines grandes écoles, comme Polytechnique, quelques bons esprits estimaient que leurs compétences les destinaient tout naturellement à diriger le pays. Bref, ils rêvaient d'un gouvernement de techniciens qui transcenderait les clivages politiques traditionnels et en finirait avec la lutte des classes.
Oui, mais concrètement, ça se traduisait par quelque chose?
Oui, à l'initiative d'un polytechnicien, Jean Coutreau, il avait été créé un cercle de réflexion, X-Crise.
Pourquoi ce nom? Enfin, X, je comprends, là. Mais crise.
La crise de 29. Les membres de ce cercle discret entendaient mettre en place une économie planifiée pour mettre fin à la crise.
Et on a pu penser que ce cercle était en fait à la base de la synarchie, c'est ça?
Oui, d'autant que la cagoule, qui aurait donc constitué ses troupes de choc, était dirigée par un autre polytechnicien, Eugène Deloncle. Aussi, la personnalité de Jean Coutreau, tout autant que sa mort mystérieuse en 1941, ont permis à certains de penser que le chef de la synarchie, le numéro 1, était bien cet agitateur d'idées.
Nous allons bien sûr revenir longuement avec M. X sur ce personnage, Jean Coutreau, qui aurait peut-être été le chef de la synarchie. Auparavant, revenons sur les rapports entre la cagoule de Gênes Deloncle et cette mystérieuse synarchie. Voici ce que je lis dans un ouvrage de Jean-Raymond Tournoux, « L'histoire secrète », publié chez Plomb en 1962. Le polytechnicien Deloncle n'a jamais rien confié à ce sujet. L'homme le plus proche de Marie, c'était le pseudonyme de Deloncle, dans le Brain Trust de la cagoule, a reçu deux seules confidences de son chef. Maintenant, dit un jour de l'oncle, j'en suis sûr, il existe un cercle, un cénacle gérant des intérêts considérables qui semble avoir les mêmes objectifs que nous en matière d'organisation de l'État et de l'Europe. C'est à la fois une société de pensée et d'intérêts très fermés. Je cherche une ouverture, je veux savoir où ces gens vont. En outre, du point de vue financier, cette alliance peut nous apporter une aide substantielle. À quelque temps de là, de l'oncle revint sur le sujet. « Ça va, maintenant, j'ai un contact. » De l'oncle s'arrêta sur le bord de la confidence. « Est-ce que ça suffit à accréditer la thèse de l'existence de la synarchie ? Certes, non, mais le propos est troublant. »
Facile ton personnage, ce Coutreau. Il mérite qu'on s'y attarde quelques instants.
Ah ben, je vous en prie.
Ce polytechnicien et grand sportif a été grièvement blessé pendant la Grande Guerre et il a été amputé d'une jambe. C'est d'ailleurs à l'hôpital qu'il rencontre sa femme, fille d'un industriel du papier. Après-guerre, il prendra la direction des affaires de son beau-père et il va alors se passionner pour l'organisation du travail avant de créer ce cercle de réflexion dont je vous ai parlé.
X-crise.
Oui. Ouais.
Et politiquement, où se situe-t-il ?
Il réfute tout autant le socialisme que le libéralisme, parce que ce sont des idéologies. Coutreau est un humaniste qui entend que le progrès économique et scientifique profite avant tout à l'homme.
Ce n'est donc pas un extrémiste comme le sont les Cagoulards.
Pas du tout. Et en 1936, il s'enthousiasmera avec ses ouvriers.
Même s'il n'est pas socialiste.
Oui, c'est curieux, non ?
Oui.
Et il conseillera très efficacement Spinas, le ministre de l'économie de Léon Blum. On estime même qu'il est à l'origine de quelques-unes des réformes importantes du gouvernement du Front Populaire.
Ouais, on est effectivement là, très très loin de la cagoule.
Certainement. Coutreau est un esprit libre, un original. Un homme d'idées infatigables qui exerce une sorte d'autorité intellectuelle sur un grand nombre de polytechniciens et d'inspecteurs des finances.
Ouais, les technocrates de l'époque.
Oui, puisque l'ENA n'existait pas encore. Et en 1940, après l'accablement de la défaite, ce patriote rejoint Vichy, où il va retrouver les mêmes technocrates qui vont si profondément influencer le régime.
Donc, attendez, après Blum, il va servir Pétain.
Coutreau est avant tout désireux d'appliquer ses idées. Et quand Vichy lui offre de participer à la commission ministérielle du plan comptable, il n'hésite pas.
Ah, quand même.
Oui, mais nombre de gens qui se rangeaient parfois plutôt à gauche ont choisi de rejoindre Vichy, même s'ils n'approuvaient pas la politique de collaboration. C'était aussi pour eux la meilleure façon de lutter contre les Boches, comme les appelaient encore ceux qui avaient connu la guerre de 14-18, quitte ensuite à basculer dans l'autre camp ou à opter pour la politique du pire.
Je vous trouve pour une fois là bien indulgent.
C'est vrai. Peut-être parce que je me suis souvent demandé ce que je serais devenu si je n'avais pas fait très vite, dès la débâcle, le bon choix. Bon, enfin, laissons ça de côté, mes états d'âme, si vous voulez bien.
Dommage, pour une fois que vous parlez un tout petit peu de vous, là.
Bon, je vous en prie.
Ouais, volontiers, en tout cas. Dans tout ce que vous m'avez dit sur ce Coutreau, là, enfin, à part le fait qu'il fréquentait de nombreux technocrates, moi, je ne vois rien qui pourrait en faire le chef présumé de cette mystérieuse synarchie.
C'est juste, mais s'il était réellement le chef d'une organisation secrète, il devait prendre des précautions, faire en sorte que rien dans sa vie publique ne le rende suspect.
Moi, je veux bien, mais enfin, vous n'avez pas l'air très convaincu vous-même, hein.
Attendez, laissez-moi poursuivre, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
Ah, très bien.
À Vichy, très vite, les technocrates s'imposent. Et parfois même contre le cabinet du maréchal. Il y a là des hommes comme Boutillier, le ministre des Finances, ou Jean Bichelonne. Ils n'ont qu'une idée, faire redémarrer les entreprises et moderniser l'appareil de production. Et le régime autoritaire de Vichy leur permet d'aller vite en procédant par décret. Ouais.
C'est alors Laval qui dirige le gouvernement, hein ?
Oui, Laval qui est entouré d'anciens cagoulards, des personnages tels Alibert, le garde des Sceaux.
Ouais, l'homme qui promulguera les lois anti-juives avant même que l'occupant ne le lui demande.
C'est exact. Et la plupart de ces cagoulards ne voient pas d'un bon oeil les technocrates prendre une telle influence à Vichy. Très tôt, certains de ces anciens comploteurs dénoncent la mainmise des hauts fonctionnaires sur l'appareil d'État. Et ils font remarquer de façon perverse que beaucoup de ces hommes ont eu des rapports très étroits avec la banque Worms.
Ouais, banque juive.
Oui, même si son patron et actionnaire principal, Hippolyte Worms, de mère non juive et marié à une arienne, comme on disait à l'époque, ne peut être légalement considéré comme juif.
Ouais, enfin, il y a le nom.
Pour les antisémites, il demeure le juif Worms. En outre, il a été notoirement anglophile. Mais enfin, ça nous en parlons plus tard, car la banque Worms, qui fera par ailleurs d'excellentes affaires pendant la période de l'occupation, va de plus en plus cristalliser les haines des cagoulards. Mais ce qui complique encore un peu plus les choses, c'est que ces conjurés d'avant-guerre ne sont pas d'accord entre eux.
Expliquez plus précisément.
Bon, alors en gros, mais sans trop entrer dans les détails. Bon, disons qu'il y a trois tendances. Certains, même si leur idéologie était proche du pétainisme, ont privilégié le patriotisme. Et ils sont partis à Londres afin de continuer la lutte contre les Allemands.
Alors, on a même dit qu'il y avait autour du général de Gaulle un nombre considérable de cagoulards.
Bon, là, on a peut-être un peu exagéré. Il y avait des cagoulards, c'est sûr. Et certains sont devenus des héros de la résistance. Mais ils étaient largement minoritaires dans l'entourage du général. Bon.
Admettons. Et les autres cagoulards, alors ?
Bah, majoritairement, ils avaient accepté les conditions honteuses de l'armistice et applaudi à la conquête du pouvoir par le maréchal.
Ouais, d'autant plus qu'ils avaient participé. Hein.
Juste. Mais assez rapidement, ils se sont séparés en deux clans. Les uns, ceux qui sont restés en zone occupée, et surtout à Paris, choisissent la collaboration la plus totale avec les nazis. Il y a parmi eux leur ancien chef, Eugène Deloncle, et ils sont proches de Pierre Laval.
Et les autres, alors ?
Ben, ils ont accompagné Pétain à Vichy, et ils sont bien décidés à inspirer le gouvernement et la Révolution nationale, et à faire ce qu'ils peuvent pour limiter la collaboration avec l'occupant et redresser le pays.
Ouais, c'est la fiction du bouclier, hein,
ouais,
c'est ça ?
Oui, le bouclier Pétain et le glaive de Gaulle. Ouais. Enfin, pour ceux-là qui hantent les couleurs des hôtels de Vichy, où se sont réfugiés les ministres, l'ennemi, c'est d'abord Laval.
Ouais, il faut persuader Pétain de s'en séparer.
Bien sûr. Et un véritable complot se prépare contre Laval. Il aboutira à la fin du mois de décembre 1940. Laval est interpellé et assigné à résidence dans son château.
Ça veut dire que les cagoulards de Vichy ont donc gagné.
Contre ceux de Paris, oui. Mais ils vont bientôt être floués. Car l'éviction de Laval et son remplacement par l'amiral Darlan vont avoir comme résultat le renforcement du clan des technocrates au sein du nouveau gouvernement.
C'est-à-dire que ces anciens cagoulards, enfin les cagoulards de Vichy, se sont donc débarrassés d'un adversaire pour retrouver un autre sur leur chemin.
Oui, c'est à peu près ça. On voit en effet arriver au pouvoir des gens comme Pierre Pucheux, Jacques Barnaud ou encore François Le Hideux, et surtout Gabriel Leroy-Ladurie. Autant de jeunes capitaines d'industrie ou de techniciens qui ont tous pour caractéristique d'avoir travaillé directement ou indirectement avec la banque Bombs.
Ça fait en effet beaucoup.
Et c'est si évident que le directeur de cabinet de Pétain se serait écrié lorsque Darlan lui a présenté la liste de ses ministres. Mais vous nous amenez toute la banque Worms.
Et comment réagissent les cagoulards, hein ?
Bah, ils crient au charron, naturellement. Ceux de Paris, mais aussi ceux de Vichy. Et ils ne vont pas avoir de cesse d'essayer de se débarrasser de ce clan Worms dont l'arrivée au pouvoir symbolise la mainmise des trusts et des puissances d'argent sur le gouvernement. Et ils suscitent une violente campagne de presse contre la banque juive.
Mais d'accord, mais est-ce que ça suffit ?
Non. Alors à Vichy, certains d'entre eux vont ressusciter l'hydre synarchique. C'est là que nous allons retrouver Jean Coutreau et découvrir l'action souterraine d'un as de la manipulation et du complot, le docteur Félix Martin. Le mystérieux docteur Martin, comme l'a appelé votre confrère Pierre Péan.
Je reviens un instant sur la réaction d'Henri Dumoulin de Labarthète, le directeur de cabinet du maréchal Pétain, lorsque l'amiral Darlan lui a présenté la liste de ses ministres. Mais vous nous amenez toute la banque Worms. D'après de nombreux historiens, Darlan aurait répliqué que ses recrues, je cite, « valaient mieux que les puceaux de sacristie qui l'entouraient ». Et l'amiral aurait ajouté « ces types jeunes et dessalés s'entendront avec les Fritz et nous feront bouillir de la bonne marmite ». En tout cas, c'est vrai, l'arrivée de ces ministres proches de la banque Worms provoque un véritable tollé chez les partisans de la collaboration pure et dure. D'autant que la banque, même si elle s'est vue imposer un commissaire allemand, prospère. Ainsi, je peux lire ceci dans l'ouvrage d'Olivier Dard, La synarchie, mythe du complot permanent. La présence d'un commissaire allemand, qui devait être un handicap insurmontable, devient au contraire un atout, car elle a été transformée en système de protection et même en avantage concurrentiel. Comme l'a expliqué Raymond Ménial, membre de l'état-major de la maison Worms pendant la guerre, ses dirigeants ont fait savoir que les capitaux placés chez eux bénéficieraient d'une sorte de protection de l'occupant et qu'au surplus, la banque était un intermédiaire commode s'il y avait des questions à discuter avec les Allemands. Ainsi, le groupe Worms a réussi à sauvegarder son existence, ses intérêts et même à prospérer économiquement. Au surplus, quelques-uns de ses dirigeants ou de ses proches sont à la tête de l'État. Le hasard ne serait point de mise, il y aurait eu complot. Ce complot serait-il celui de la synarchie ?
Le docteur Martin que nous allons retrouver tout au long de l'histoire de la synarchie est un personnage tout à fait étonnant.
Cagoulard ?
Naturellement. Il a même été le chef de son service de renseignement. C'est un spécialiste. Toute sa vie, Martin, le Bib, comme on l'appelait.
Le Bib, abréviation de tout Bib ?
Bien sûr. On l'a aussi appelé Mephisto. Enfin, tout un programme. Donc toute sa vie, il a rédigé des fiches sur tout et tout le monde. J'ajoute qu'il a aussi très souvent collaboré avec nos services secrets.
L'auriez-vous personnellement connu?
Il m'est arrivé de le croiser, enfin quand il n'était pas en prison.
Parce qu'il a été souvent arrêté.
Oui, très souvent, oui. Le docteur Martin était un comploteur né, mais malheureusement pour lui et heureusement pour la démocratie, il a toujours échoué. Sauf une fois, en décembre 1940, lorsque, complotant avec ses amis cagoulards, il a réussi à obtenir l'éviction de Pierre Laval.
Ouais. Si je vous suis bien, c'était donc un extrémiste de droite, quoi.
Il nourrissait un rêve, abattre la gueuse, comme on disait avant-guerre.
Ouais, la gueuse de la République, quoi.
Oui. Martin était fondamentalement royaliste. C'est assez curieux parce que sa mère et son père étaient tous les deux des descendants de députés révolutionnaires qui avaient voté la mort de Louis XVI.
Il est devenu royaliste pour s'opposer à ses parents.
C'est probable. Il a d'abord milité à l'Action française. Mais il s'est fâché avec ses dirigeants qu'il trouvait trop mous. Et presque naturellement, il a rejoint les rangs de la cagoule. Ajoutons, mais c'est sans doute superflu, qu'il est farouchement antisémite.
Ouais, et en 1940, on le retrouve donc à Vichy. Il ne
pouvait pas en être autrement. Pétain, en prenant le pouvoir et en liquidant la Troisième République, avait déjà fait une partie du travail. Et il ne désespérait pas de voir un jour le maréchal rétablir la royauté.
Ce en quoi il se faisait peut-être des illusions.
C'est possible. En tout cas, le docteur Martin est l'un des premiers à s'opposer au gouvernement des technocrates mis en place sous la houlette de l'amiral Danlan. Et il va se livrer à une redoutable opération.
Avant d'y venir, là, que fait Martin à Vichy exactement?
Il a constitué autour de lui un véritable réseau d'enseignement.
Comme d'habitude.
Ouais, et il rassemble des informations sur ses ennemis naturels. Les juifs, les technocrates, les impérialistes anglo-saxons et les sociétés secrètes. Car le Bib est persuadé de l'existence de puissances occultes qui manipulent les hommes.
Et en tant qu'ancien cagoulard, il est bien placé pour le savoir. Hein.
C'est juste. Ouais. Ouais.
Et qui le paie?
Le gouvernement.
Ce gouvernement de technocrates qu'il passe son temps à dénoncer?
Oui, il faut croire que Martin rend des services, et puis il n'y a pas que des ministres technocrates.
Alors, cette opération-là,
En juin 41, Jean Coutroux est retrouvé mort au pied de son immeuble. Suicide, accident, assassinat, toutes les hypothèses sont envisagées.
Et laquelle est la bonne alors?
Coutroux, qui était déprimé depuis la défaite de 40, s'est vraisemblablement suicidé. Quoi qu'il en soit, pour Martin, qui haïssait depuis très longtemps le polytechnicien, cette mort est providentielle, parce qu'il va faire de ce disparu, bien incapable de se défendre, le chef de la synarchie.
Comment et avec quelle preuve?
Une perquisition au domicile de Coutroux aurait permis de mettre la main sur un ouvrage intitulé « Le pacte synarchique d'Empire », un ouvrage quasi hermétique qui est la bible du mouvement synarchique.
Et qui lit-on là dans ce bouquin?
Ça commence par un redoutable avertissement menaçant de terribles sanctions tout possesseur illicite du livre. Ensuite, on y trouve un salmigondi qui emprunte beaucoup aux écrits de Saint-Yves d'Alvèdre, mais c'est surtout une sorte de manuel révolutionnaire. Une révolution qui ne doit pas avoir lieu dans la rue, mais par le haut.
Ouais, les élites, toujours. Martin a donc connaissance de l'existence de cet ouvrage?
Mieux, il l'a entre les mains.
Comment?
Il n'est pas interdit de penser que ce document a été fabriqué de toutes pièces par Martin ou quelques-uns de ses amis. Après tout, le fameux protocole des sages de Sion, un ouvrage qui a nourri l'antisémitisme pendant une grande partie du XXe siècle, a bien été écrit par la police secrète du Tsar.
Ouais. Et que fait-il alors de ce fameux document-là?
Martin va le faire parvenir directement au maréchal. Mais il l'accompagne d'une note où il dénonce les objectifs de la synarchie, fer de lance de la judéo-plutocratie et dévoile le nom de ses principaux animateurs.
Je m'imagine qu'il doit désigner les ministres techniciens, ceux qui détestent.
Bien entendu, il ajoute perfidement que tous ces comploteurs qui veulent vider la révolution nationale de son contenu se réunissent régulièrement dans une popote de la banque Worms.
C'est complet. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas dans le raisonnement de Martin avant-guerre. Enfin, si la synarchie avait une existence réelle, elle marchait de conserve avec la cagoule.
C'est ce qu'on a prétendu.
Alors, pourquoi aujourd'hui ce divorce?
Parce que les cagouleurs prétendent qu'ils ont été, pardonnez-moi le mot, cocufiés par les synarches.
Ah.
Et on s'est servi d'eux, ils ont été manipulés.
Ouais. Mais à votre avis, Martin, personnellement, croyait-il vraiment à l'existence de la synarchie?
Écoutez, je n'en sais rien. Sa personnalité, son goût du secret, de l'intrigue, le poussait certainement à croire à la réalité de cette société secrète. N'oubliez pas que la lutte contre les sociétés secrètes a été l'une des obsessions de Vichy.
Oui.
À commencer par les persécutions menées contre les francs-maçons. Mais d'un autre côté, nous l'avons dit au début de ces entretiens, la menace représentée par une pseudo-synarchie peut être bien utile. Et Martin y aura souvent recours pour justifier ses choix politiques.
Et Pétain, lui, comment réagit-il lorsqu'il reçoit Le document et la note de Martin.
Eh bien, il est troublé.
Troublé, c'est-à-dire qu'il y croit lui aussi?
Je le pense, oui. En tout cas, il est obligé de faire quelque chose parce que la presse de la collaboration informée et aiguillonnée par les cagoulards commence à faire grand bruit autour de cette affaire de la synarchie. Et de plus en plus, on demande au maréchal de sévir contre ces synarques qui ont infiltré le pouvoir.
Alors, que va-t-il faire?
Un discours. Le plus long discours radiodiffusé qu'il ait jamais prononcé. Et s'il ne prononce pas le mot synarchie, on sent que son propos est bien dirigé contre les synarques.
Oui, mais précisément, que dit-il?
Il dit en substance que si la révolution nationale ne s'est pas encore traduite dans les faits, c'est qu'entre lui et le peuple se sont dressés les partisans de l'ordre ancien et les serviteurs des trusts. Ça me paraît clair.
Mmh.
Et il annonce en même temps une série de mesures en faveur des artisans et de la petite industrie.
Oui, mais prend-il pour autant des sanctions contre ceux de ses ministres qui sont accusés d'avoir partie liée avec la synarchie?
Ah, pas du tout. Au contraire, il renouvelle sa confiance à l'amiral Darlan et à son gouvernement.
Ce qui peut mettre en fureur le docteur Martin et ses amis cagoulards.
Oui. Et ça les conforte dans leur idée que la synarchie est décidément toute puissante et qu'il faut l'abattre le plus rapidement possible. Leurs attaques vont redoubler, toujours plus violentes et parfois nourries de calomnies contre les ministres visés. Mais rien n'y fait, pas même l'accusation de Martin contre la banque Borms qui aurait provoqué la défaite de 40 pour mieux s'emparer des leviers économiques du pays.
Mmh. Et face à ces attaques, alors le gouvernement de Vichy laisse faire?
Non, le ministre de l'Intérieur, Pierre Pucheux, l'un des hommes régulièrement dénoncés par Martin et ses amis, finit par se fâcher. Le Bib est arrêté au printemps 42 et interné. Ça lui permettra de retrouver ses adversaires d'avant-guerre, quelques hommes politiques du Front Populaire. Curieux clin d'œil de l'histoire.
En effet, oui.
Mais le plus intéressant n'est pas là. Cette affaire de la synarchie n'a pas été suivie qu'en France.
On veut dire à l'étranger, c'est ça, oui.
Mm-hmm. À Londres, bien sûr. Dans les milieux de la France libre, mais aussi aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où l'administration et les services secrets s'interrogent. Et bientôt, tout le monde commence à croire sérieusement à l'existence de cette société secrète. On en reparlera après la guerre, et même beaucoup plus tard, à notre époque.
Un journaliste de la presse collaborationniste, Jean Constantini, publie en août 41, après le discours de Pétain, une lettre ouverte à l'adresse de ce dernier. Olivier Dard, dans son ouvrage déjà cité, écrit à ce propos. Constantini met en cause une bande organisée qui a fomenté un complot contre la vie et l'avenir de la patrie et entend révéler tous les détails de cette conspiration aux ramifications juives et aux aboutissants anglais. Menée par la plus fantastique organisation secrète de tous les temps, cette conjuration qui veut faire échec à la politique du maréchal poursuit entre autres buts la mainmise sur l'industrie française, la protection des groupes financiers internationaux, la sauvegarde des intérêts juifs par tous les moyens, dans tous les domaines, ainsi que des intérêts anglo-saxons liés avec les groupes financiers affiliés au mouvement, etc. Aux commandes, on trouverait un homme, Jean Coutreau. Présenté comme un des fondateurs du mouvement synarchique d'Empire, sa mort n'aurait rien de naturel, il aurait été acculé au suicide. Le contenu de ces accusations n'est pas neuf par rapport aux articles précédents. En revanche, ce dossier donne des précisions sur cette société secrète et livre au public, pour étayer ses dires, un document de première importance, le pacte synarchique d'Empire, dont il publie de larges extraits. Pour la première fois, la synarchie est matérialisée. Le livre d'Olivier Dard, La synarchie, mythe du complot permanent, a été publié chez Perrin. Je vous signale aussi la parution récente, également chez Perrin, d'un ouvrage de Bénédicte Vergès-Chaignon, consacré à un autre médecin, Ménétrel, conseiller et intime de Pétain. Ménétrel, en qui on a vu souvent l'éminence grise du maréchal. On y parle, bien sûr, du docteur Martin, de la cagoule et de la synarchie. Enfin, je vous recommande la lecture du livre de Pierre Péan, Le mystérieux docteur Martin, réédité par le livre de poche. Existait-il, et existe-t-il peut-être encore, une organisation clandestine internationale régnant en secret sur nos destinées, faisant et défaisant les gouvernements, décidant des principaux événements du monde? La question n'est pas aussi saugrenue qu'il y paraît. Nombreux sont les gens qui, cédant à la tentation de la complotite, croient à l'existence de cette mystérieuse société secrète, aux États-Unis principalement, mais aussi chez nous. Autrefois, cette pieuvre portait un nom, la synarchie. Mythe ou réalité, la synarchie aurait été l'expression d'une conspiration permanente menée par quelques élites intellectuelles, politiques ou économiques. À l'origine, M. X l'a expliqué la semaine dernière, il y avait un Français, le marquis Saint-Yves d'Alvèdre, ce passionné d'ésotérisme qui prétendait appartenir à une caste de grands initiés, a publié à la fin du XIXe siècle plusieurs ouvrages prônant la création d'un pacte synarchique, une sorte de contrat entre les principaux pouvoirs qui conduirait un gouvernement harmonieux. Bref, une révolution par le haut, sans désordre dans la rue. Les écrits hermétiques de Saint-Yves ont suscité une abondante littérature dans les milieux occultistes, mais n'ont débouché sur aucun projet politique sérieux. Mais soudain, lors de la révélation du complot de la cagoule à la veille de la guerre de 39-40, on prétend que les conspirateurs agissaient à l'instigation de la synarchie, une instance secrète regroupant des industriels et des hauts fonctionnaires. Aussitôt, les communistes accusent les représentants des 200 familles, tandis que l'extrême droite dénonce les ploutocrates judéo-maçonniques et le capitalisme anglo-saxon. La question rebondit sous le régime de Vichy. D'anciens cagoulards affirment avoir été abusés par les synarques qui accusent maintenant ces derniers de saboter la révolution nationale de Pétain et d'avoir pris en main la réalité du pouvoir. Des noms de ministres sont prononcés, des rapports confidentiels circulent, la presse de la collaboration produit même un exemplaire du pacte synarchique. Le maréchal lui-même semble ne pas douter de l'existence de la synarchie. Le maréchal, mais aussi, nous a dit M. X, ses adversaires à Londres, à Washington. Les services secrets s'interrogent. Et désormais, le spectre de la synarchie va ressurgir régulièrement lors des soubresauts de notre histoire, à tel point que certains pensent aujourd'hui que le dernier avatar de la synarchie s'appelle la mondialisation.
On aurait pu penser qu'à la fin de la guerre, la page de la synarchie aurait été définitivement tournée.
Oui, avec la fin du vichisme, c'est ça.
Et de tous ceux qui étaient censés incarner la synarchie.
Oui, ces fameux ministres technocrates, là, c'est
par exemple. Mais, et pourtant, c'est exactement le contraire qui se passe. Car de nombreux résistants sont persuadés que toutes les têtes de l'hydre n'ont pas été coupées et qu'elles sont prêtes à repousser à la première occasion. Mieux, ces résistants soupçonnent la résistance d'être infiltrée par la synarchie.
Oui. Mais est-ce que ça... un rapport avec le fait que certains cagoulards avaient rejoint le combat de la France libre?
Non, c'est probable. Mais ça montre surtout que les gens qui avaient initié, organisé la campagne contre la synarchie avaient été particulièrement efficaces. Puisque même ceux qui avaient été leurs adversaires les plus résolus y croyaient. Et d'ailleurs, il faut le souligner, ce sont les communistes qui donnent le la.
Bon, ça me semble logique, puisqu'avant-guerre, ils avaient déjà dénoncé ce qu'ils appelaient les 200 familles.
Vous avez raison, mais il n'empêche que la violence de l'attaque surprend. Les communistes, rappelons-le, sont alors associés au gouvernement issu de la Libération.
Oui, mais que disent-ils exactement?
Ils soutiennent que la synarchie, qu'ils présentent comme une franc-maçonnerie capitaliste et réactionnaire, sabote le redressement économique de la France et continue à conspirer contre la démocratie renaissante. Comme avant la guerre, cette même synarchie avait fait en sorte de provoquer la chute du Front populaire.
Au fond, les communistes, là, sont dans leur rôle.
D'accord. Enfin, avouez qu'il est curieux de voir les communistes reprendre à peu près les mêmes arguments que l'école à Boudière. Car eux aussi accusent ce malheureux Jean Coutreau, ce polytechnicien qui, après avoir conseillé le ministre de l'économie du Front populaire, a été désigné en 1941, après son suicide, comme étant le principal animateur de la synarchie.
Et attendez, à votre avis, les communistes croient sincèrement à la réalité du complot synarchique? Ou s'en servent-ils uniquement à des fins de propagande?
Bon, écoutez, je n'assistais pas aux réunions du bureau politique du PCF.
Mais sans doute, enfin, vous avez bien l'idée, non?
Là, franchement, je pense que les dirigeants communistes de l'époque ne croyaient nullement à l'existence de la synarchie, mais ça leur permettait de régler des comptes et surtout de mettre en difficulté leurs alliés gouvernementaux, c'est-à-dire les socialistes et les démocrates chrétiens.
Et le général de Gaulle.
Évidemment, le général dont ils critiquaient déjà la pratique personnelle du pouvoir et qu'ils accusaient aussi, à demi-mot, d'être entouré d'anciens cagoulards. Mmh. Enfin, pour être tout à fait exhaustif, il faut dire également que les communistes ne sont pas les seuls à dénoncer la conspiration synarchique.
Ah, qui alors?
Des hommes généralement situés à gauche, des radicaux, des socialistes. Ils sont plusieurs, dont j'ai oublié les noms, à publier des ouvrages sur la synarchie, qui serait, affirme-t-il, une organisation fasciste secrète. Ce qui est amusant, c'est que ces auteurs reprennent dans leur argumentation des informations trouvées dans des rapports de police ou dans des documents publiés à l'instigation des cagoulards anti-synarques.
Comme cette note-là du docteur Martin envoyée au maréchal Pétain.
Oui, d'autres voient là la main des jésuites et du Vatican derrière la synarchie.
Pas de courage, c'est ça.
C'est une façon d'attaquer la démocratie chrétienne.
Mais tout ça ne vous paraît pas très sérieux, non?
Pas très, non. D'ailleurs, l'enquête judiciaire qui s'en suivra ne débouchera sur rien. Toutefois, c'est troublant de voir autant de bons esprits dénoncer la synarchie et donc, en fait, légitimer du même coup son existence.
Mais oui, mais Enfin, comment procède-t-il
Tous ces gens accumulent, non pas des preuves, il n'en existe pas, mais des faits qu'ils relient entre eux. Et ils procèdent ainsi à une véritable réécriture de l'histoire. Cette histoire qui ne s'expliquerait, selon eux, que par l'intervention de la synergie dans les affaires de notre pays, mais aussi du monde entier.
Ah, oui.
Car le complot est évidemment international, comme le sont les trusts les plus puissants qui sont à son origine.
Oui. Tout ça est très spécieux.
Hein. Et lorsqu'on reproche à ces auteurs de ne pas apporter de preuves, ils répondent avec la plus grande bonne foi qu'ils ne le peuvent pas, puisque la synergie est une société clandestine qui défend jalousement ses secrets et menace même de mort ceux qui seraient tentés de les dévoiler.
Donc, si je vous comprends bien... Hein, pour eux, l'action de la synarchie, c'est une tentative d'explication globale de la marche de l'histoire.
Tout ça, oui. Et on ne peut rien comprendre aux affaires du monde si on ne tient pas compte de l'existence occulte de la synarchie.
Est-ce que le climat de l'après-guerre peut expliquer, sinon légitimer cette croyance?
C'est certain. Nous en avons déjà parlé ensemble, mais la brève existence de la 4e République va être marquée par toute une série de complots.
Ouais, des complots d'extrême droite, surtout.
Oui. Certains sont assez fantaisistes, d'autres sont plus sérieux. Et ça se terminera par le coup du 13 mai 58. Mais on y viendra un peu plus tard, si vous me le permettez.
Parce que là aussi, là, en 58, on peut voir la main de la synarchie.
Un petit peu de patience. Alors c'est vrai que dans cette atmosphère conspiratrice, il est tentant de voir l'existence d'une société secrète qui manipulerait tous ces comploteurs, dont beaucoup sont d'ailleurs d'anciens cagouleurs, il faut le noter. Mais rapidement, à couche, tout du moins, on cessera d'accuser la synarchie. Par contre, une partie de l'extrême droite, comme sous Vichy, va à nouveau faire de la synarchie sa bête noire.
Un retournement du balancier.
Oui, c'est étrange de constater comment les gens de l'époque se jettent la synarchie à la figure.
Quels sont les arguments développés par cette extrême droite, où j'imagine on va retrouver le célèbre docteur Martin?
Il ne pouvait pas en être autrement. Alors faisons une petite parenthèse. Nous avons quitté Martin, dit le Bib, en 1942, au moment où Pucheux avait pris contre lui une mesure d'internement. En 1944, après le débarquement, et alors que la France n'est que très partiellement libérée, Martin s'évade et il rejoint aussitôt la résistance.
Pour faire oublier son passé ?
Non. Le docteur Martin est certes viscéralement anti-républicain et même malheureusement antisémite, mais c'est un patriote sincère. Et il va jouer un rôle important dans la libération de Lyon, par exemple. La suite est plus intéressante.
C'est-à-dire la suite ?
Il approche les services de renseignement américains.
L'OSS, c'est
oui,
ça ?
Oui, et il va travailler quelques mois pour eux.
C'est vrai que c'est en quelque sorte un spécialiste.
Et il effectue plusieurs missions de renseignement en Allemagne. Des missions parfois dangereuses et qui donnent entièrement satisfaction à ses employeurs américains. Et si vous voulez mon avis, Martin a noué là des contacts qu'il ne rompra jamais.
Vous voulez dire qu'il continuera à collaborer avec les services américains?
C'est très possible.
Et ensuite alors?
Dès la fin de la guerre, Martin reprend ses activités coutumières, il recommence à faire des fiches.
Des fiches de renseignement?
Oui, il a constitué son petit réseau d'informateurs, ce qu'on va désormais appeler la Maison Martin. Et comme avant-guerre, il s'intéresse essentiellement à la pénétration communiste et soviétique dans notre pays. Et le personnage étant bien connu et apprécié des services français, il n'hésite jamais à communiquer ses précieuses informations lorsqu'on lui demande.
C'est une sorte d'agent, non?
Parfaitement. Et quand en 1948, il doit répondre de ses activités de cagoulard devant la justice, il passe sans difficulté à travers les mailles du filet.
C'est-à-dire grâce à ses relations avec les services secrets?
Naturellement. Et la police veillera à ne pas l'arrêter. Alors même qu'il fait l'objet d'une surveillance permanente des renseignements généraux.
Attends, pourquoi là? Il a recommencé à comploter?
Évidemment. Il a repris contact avec ses amis de la cagoule. Et il est à l'affût de tout ce qui pourrait précipiter la chute de cette république qu'il aborde. Justement, le projet de création de la CED, la Communauté Européenne de Défense, va lui donner l'occasion d'un nouveau combat. Car pour Martin, il ne fait nul doute que ses promoteurs qui veulent sacrifier la souveraineté française en matière militaire ne peuvent être que des synarques.
Pour son livre « Le mystérieux docteur Martin », Pierre Péan a consulté des archives américaines. Une note des services secrets datée de juillet 1944 montre que les Américains prenaient l'affaire de la synarchie très au sérieux. En voici quelques extraits. Quelques-uns des plus vieux et plus fidèles supporters du général de Gaulle sont préoccupés par ce qu'ils appellent une tendance à laisser la synarchie pénétrer même les plus hauts niveaux de l'administration d'Alger. On pense que jusqu'à une époque récente, le général de Gaulle était opposé à la synarchie, qui est un mouvement très réactionnaire financé par la Haute Banque. Il a même commandé une étude confidentielle sur le sujet. Une copie de celle-ci a été lue par des officiers américains, mais depuis sa divulgation n'est pas assez connue. Notre informateur prétend que, si le général de Gaulle n'a pas changé d'état d'esprit à l'égard du mouvement, quelques personnes qui l'entourent sont connues en revanche pour avoir adhéré à la synarchie. C'est ainsi que Diethelm, le ministre de la guerre, le colonel Passy et le commandant Pélabon figurent parmi les personnalités les plus connues. Un récent rapport confidentiel a été préparé par ces vieux gaullistes sur la pénétration du groupe dans l'administration d'Alger. L'ouvrage de Pierre Péan a été récemment réédité au livre de poche.
Alors pour Martin, docteur Martin, communauté européenne de défense et synarchie, même combat.
Oui, oui. Et comme à son habitude, Mephisto, comme on l'appelle aussi, se remue, prend des contacts à droite et à l'extrême droite, rencontre des officiers des anciens combattants, dénonce les traites du Quai d'Orsay, suscite la publication de brochures et essaie enfin de regrouper autour de lui tous les gens qui veulent en finir avec la 4e République.
Oui, l'agitation, ça.
Sans doute. Mais il y a en germe une partie des ingrédients qui, une fois mélangés, permettront la réussite du coup du 13 mai 58. Et le docteur Martin y prendra une part notable. Alors, quels sont les arguments de l'extrême droite pour ressusciter le fantôme de la synarchie, m'avez-vous demandé, avant que je ne vous parle de Martin?
Mais l'extrême droite, il faut le dire, qui a toujours eu tendance à voir des complots partout.
Bien sûr. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Ces gens-là ont toujours été persuadés que des forces occultes menacent notre pays. Il y a le communisme, évidemment, mais pas seulement. Les multinationales sont aussi désignées. Ce qui est en cause pour ces extrémistes, c'est la décadence de la nation française. Une décadence qui est donc orchestrée par les puissances d'argent, les technocrates et tous les mondialistes.
On parle déjà de mondialisation ?
Le mot n'a pas encore été inventé, mais on évoque en effet une idéologie mondialiste qui aurait pour but la dissolution progressive de l'identité française et finalement la ruine de la France. Ouais.
J'imagine que l'abandon progressif de nos colonies va jouer un rôle dans le développement de cette thèse.
Naturellement, c'est la France qu'on liquide peu à peu. Et Martin et ses réseaux ne vont pas se priver d'infiltrer des mouvements comme la puissante association des combattants de l'Union française. En fait, enfin, vous l'avez compris, tous ces gens-là rêvent de reconstituer une nouvelle cagoule. La défaite française en Indochine, puis les événements d'Algérie vont leur permettre d'aboutir.
Et l'objectif étant d'aboutir à un coup d'État.
Bien entendu. Et comme avant-guerre, il faut donc créer une véritable organisation clandestine politico-militaire. Et le docteur Martin s'y attelle avec la passion qu'on lui connaît. Ce sera le présidium, puis ce que les conjurés appelleront, pour une raison que j'ignore, le grand O.
Le grand O.
Ouais. Lorsque la contre-révolution aura gagné, on créera, c'est très intéressant, un comité de salut public.
Ouais, c'est une appellation qui sera reprise à Alger en mai 58.
Hein. Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard.
D'accord.
Ce comité devra ensuite désigner un directoire politico-militaire qui mettra en place un état corporatif.
Comme à Vichy.
Oui. Et on s'attaquera en priorité aux communistes et plus généralement à l'imprégnation marxiste dans tous les cercles de la société. À l'école surtout, cette école sans Dieu qui pervertit les enfants. Et naturellement, les francs-maçons ne seront pas oubliés.
Et la synarchie dans tout ça,
là ? Elle n'a jamais quitté l'esprit du docteur Martin. Et il va en persuader tous ceux qu'il recrute. La lutte contre les défaitistes, les capitulaires, les bradeurs d'empire, c'est d'abord la lutte contre la synarchie.
Comment se met en place la conjuration ?
Le fer de lance militaire, c'est cette association des combattants de l'Union française dont je vous ai parlé. Elle est alors dirigée par un jeune sous-officier très entreprenant, un ancien Indochine, Yves Gignac, et regroupe entre 30 et 40 000 adhérents. On rencontre à son siège des hommes politiques issus du RPF.
Les gaullistes, hein ?
Oui, mais on y croise aussi beaucoup d'officiers supérieurs toujours en activité, c'est très pratique.
Et pour le recrutement ?
Bien entendu. C'est ainsi que grâce à Gignac, qui travaille la main dans la main avec le docteur Martin, se met en place un véritable processus d'infiltration de l'armée. Le but, c'est de créer des antennes dans chaque régiment, chaque caserne.
Et ces militaires, alors, acceptent d'être recrutés ?
L'armée, humiliée par les défaites en Indochine, travaillée par des officiers qui refusent un nouvel abandon en Algérie, est susceptible d'être tentée par l'aventure. Mmh. Des officiers prestigieux, comme le maréchal Juin même, si ce dernier refusera de s'engager, considère avec beaucoup de sympathie l'action entreprise par ces néo-cagoulards.
Et les civils
Le présidium bénéficie d'un certain nombre de soutiens, essentiellement dans les organisations professionnelles, routiers, petits patrons, artisans, agriculteurs. Ouais.
Ce qui va constituer au fond le fonds de commerce du poujadisme.
Exactement. Et comme au temps de la cagoule, les conjurés s'assurent de la complicité d'un certain nombre de fonctionnaires qui, au jour J, seront chargés de couper l'électricité de la capitale ou encore de paralyser la circulation en bloquant tous les feux au rouge.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'Algérie. C'est évidemment là qui doit être le plus facile de recruter des sympathisants et même des acteurs.
C'est un terreau évident pour les conspirateurs. Non seulement Martin et ses amis infiltrent les unités armées qui combattent là-bas, mais ils vont attirer à eux de nombreux partisans du maintien à tout prix de la France en Algérie. L'un d'entre eux en particulier va prendre une place éminente dans le complot.
Qui ?
Un jeune colon de la Mitidja, Robert Martel.
Ah, ouais.
Un exalté mystique et royaliste, une sorte de chouan qui est persuadé que Dieu et le Sacré-Cœur sauveront la France et restaureront la monarchie.
Peut-être un peu naïf, ce Martel, non ?
Très naïf, et donc facilement manipulable. Il croit, ou on l'a fait croire, que le FLN algérien est une pure création du gouvernement français et des capitalistes étrangers qui veulent mettre la main sur le pétrole saharien.
On se rapproche de la synarchie, là.
Hein ? En effet. Et instruit par le docteur Martin, Martel ne doutera pas un instant de l'existence de la synarchie. Ça correspond tellement à tout ce qu'il croit, quoi qu'il en soit, ce qui intéresse le Présidium, qu'on n'appellera plus désormais que le Grand O. C'est que Robert Martel a créé l'UFNA, Union Française et Nord-Africaine.
C'est un mouvement Algérie-Française.
Oui, un mouvement qui va attirer de plus en plus de pieds noirs au fil des mois et des années, et qui va aussi posséder l'organisation paramilitaire forte de plusieurs dizaines de militants.
Une aubaine pour les comploteurs du Grand O.
Naturellement, et Martel, sans aucune difficulté, rejoint donc la Maison Martel.
Là, ça commence à faire beaucoup de monde.
Effectivement.
Et aucune fuite, aucune imprudence ne suscite la méfiance de la police ou des services secrets ?
Bien sûr que si. Tous les comploteurs ne sont pas aussi professionnels que le docteur Martin. Des conspirateurs se sont laissés aller à des bavardages, d'autres ont trahi. Mais la police, c'est très clair, ne cherche pas à savoir. Et les renseignements généraux minimisent le danger que représente le Grand O.
À dessein ?
Pourquoi pas.
Et les services secrets, alors ?
Le SDEC ? Bon, ce n'est pas de sa compétence. En outre, je vous ai dit que Martin avait ses entrées à la piscine. Et son gendre, Pierre de Villemarais, un ancien agent du SDEC, rend de précieux services en s'engageant physiquement dans la lutte contre le FLN.
Ce qui veut dire ?
Villemarais organise avec succès des attentats contre des dirigeants de l'organisation rebelle. Et puis nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Au SDEC, qui a beau être dirigé par un socialiste, on est franchement Algérie française. Non, ce serait plutôt à la DST d'agir. Mais le patron, Roger Vibault, observera avec beaucoup de sympathie le coup de mai 58.
Ouais, donc on ferme les yeux.
Oui, le plus souvent possible. On surveille à distance. Et de temps en temps, lorsque les conspirateurs font preuve d'une trop grande imprudence, on tire un coup de semonce. Ainsi qu'en 1957, Martin et Martel seront tous les deux embastillés. Mais pour peu de temps, je vous rassure tout de suite.
Au contraire, moi je trouve pas ça très rassurant.
Moi non plus. Bref, les activistes du Grand O, ces néo-cagoulards, n'ont donc pas trop mal ficelé leur affaire. Mais ils se trouvent devant une difficulté de taille. Il leur faut trouver un chef. Un homme qui incarnera la contre-révolution le moment venu.
Un militaire ?
Oui, Martin tient à demeurer dans l'ombre. Quant à Robert Martel, il n'a pas la carrure. Les cagoulards ont pensé à un moment au président de la FNSEA, qui était de tout cœur avec eux. Mais c'était une fausse bonne idée. Alors ils doivent convaincre un général à plusieurs étoiles. Juin, je vous l'ai dit, se récuse. Salan est approché, mais prudemment, il s'esquive.
Il n'y aura pas la même prudence lors du putsch de 61.
C'est vrai. Alors, qui sera donc le grand A du grand O, comme ils vont bientôt désigner leur chef ?
Robert Martel, le chouan de la Mitidja, l'animateur de l'Union française et nord-africaine, a été très influencé par le docteur Martin, mais il a été précédé par une femme étrange, Rolande Renoux, qui tenait à Alger une librairie consacrée à l'occultisme. Librairie qui servait aussi de lieu de rendez-vous des confréries mystiques et des comploteurs de tout poil. Christophe Nick, dans son livre « Résurrection » consacré au 13 mai 58, décrit ainsi l'initiation de Robert Martel. « Je l'initie au père de Foucault, raconte Rolande, le Christ-Roi. Je lui ai prêté le livre « Malédiction et bénédiction » qui lui a ouvert les yeux. Martel ne s'en sera jamais remis. Cette sorte de prédiction à la Nostradamus qui annonce le retour d'un roi en France, il va totalement s'en pénétrer et passera le reste de sa vie habité, hanté par cette révélation qui donne enfin un sens à son existence. » Il faut se représenter notre agriculteur tombant d'un coup sur cette femme habillée en sarouel, la mitraillette au poing, priant vers la Mecque avec les derviches et implorant les diverses réincarnations de Shiva, déesse hindoue de la guerre et de la mort. L'homme s'est laissé guider puis soumettre par elle, autant par mysticisme que par fascination, voyant en elle une sorte d'archange venu lui apporter la vérité. Je l'ai « initié aux choses spirituelles », explique encore Roland Renoux. « La contre-révolution, toujours. Dans mon esprit, il fallait relier l'Europe et l'Afrique pour éloigner les deux monstres, le communisme et le capitalisme. » Le livre de Christophe Nick a été publié chez Fayard.
Alors, qui va être le grand A du grand O ?
Le choix se fait donc par défaut, puisque ni Juin ni Salan ne veulent apparaître. Ce sera Cherrière, un gros général qui, avant-guerre, a déjà appartenu à la branche militaire de la cagoule. alors qu'il était commandant des troupes françaises en Algérie, il a démissionné de l'armée en 1955 parce qu'il trouvait le nouveau gouverneur, Jacques Soustelle, trop tiède.
Eh ben, au moins, celui-là, sur le plan politique, il a le profil. Hein.
C'est juste. Mais vous allez le voir, sur le plan psychologique, il en allait tout autrement. En tout cas, dès qu'il devient le grand A, avec l'aide de son adjoint, un autre général, Chassin.
Ah ben, c'est le grand B, lui.
Exactement. Donc, Chérière et Chassin mettent au point le scénario militaire du coup d'État. On est alors fin 57, début 58. Les deux généraux contactent leur père, qui commande des régions militaires, et plusieurs basculent en leur faveur, en particulier le général Miquel, qui est à la tête de la 5e région, celle de Toulouse.
Hey, c'est là où se trouvent basés les paras.
Oui, mais à Lyon, à Bordeaux et aussi à l'école de guerre, d'autres généraux acceptent d'accorder leur concours aux futurs putschistes. Je vous passe les détails du plan, ce n'est pas très important. Sachez simplement qu'il prévoyait que tout commencerait à Alger, où Chérière, avec le concours de l'armée et des hommes de Robert Martel, prendrait le pouvoir. Puis la métropole s'embraserait à son tour et Paris tomberait.
Mais est-ce qu'ils avaient prévu la réaction quand même des forces de gauche là ?
Ah, ils espéraient même que les communistes descendraient dans la rue pour mieux les réprimer. Mais il y a un élément qu'ils avaient oublié ou qu'ils n'avaient tout simplement pas prévu, c'était qu'ils n'étaient pas les seuls à comploter. Il y avait aussi les gaullistes.
Ouais, donc, est-ce qu'il existait des liens entre les deux complots ?
Bien sûr. Des hommes conspiraient parfois dans les deux camps à la fois.
Ah, ouais.
Et le scénario imaginé par les uns et par les autres était à peu près le même. Mais le 13 mai 58, ce sont les gaullistes qui ont été les plus malins et le grand O s'est fait souffler son complot.
Ouais. Et effectivement, parce que du balcon du gouvernement général, ça l'emporte. Malgré lui, peut-être, a prononcé le nom du général de Gaulle sous les applaudissements de la foule.
Ah, dès lors, les amis du docteur Martin avaient perdu. Mais c'est aussi qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval.
Ah, Chérière,
oui, ça. Au dernier moment, le gros général s'est dégonflé. Et il a préféré le confort de son pavillon de banlieue à l'aventure algéroise.
Alors le docteur Martin a été floué.
Et lui, qui était déjà très anti-gaulliste, va redoubler ses attaques contre le général, ce qui lui vaudra d'ailleurs un nouveau séjour en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Car le BIB ne renonce pas à comploter, il va même créer une section OAS en métropole. Et il n'hésitera pas non plus à affirmer le plus sérieusement du monde que de Gaulle est, sinon un initié de la synarchie, du moins un homme qui agit sous l'influence de celle-ci.
Oui, par conséquent, selon lui, c'était la synarchie qui gouvernait à travers le général de Gaulle.
Tout à fait ça, oui. Mmh. Pour Martin, de Gaulle n'était pas libre. La technocratie gaulliste est infiltrée par les synarques. Il n'est pas inintéressant de noter que peu de temps après le retour du général, des bombes éclateront devant le siège de plusieurs grandes banques, dont la banque Worms, accusée sous l'occupation d'être un nid de synarques.
Mmh. Et dans la période plus contemporaine, alors, se trouve-t-il toujours des gens qui pensent que la synarchie est toujours présente ?
C'est certain. Et ces hommes qui se situent aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite sont persuadés qu'un certain nombre d'organisations internationales sont manipulées par la synarchie.
Ah, et lesquelles alors ?
Bon, toutes les organisations à vocation mondialiste, la trilatérale.
Mais rappelez-moi ce que c'est déjà.
C'est la réunion régulière de dirigeants et de responsables économiques d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Certains y ont vu une manifestation synarchique.
Bon, j'imagine que c'est absurde.
Parfaitement absurde, parce que ces réunions n'ont jamais rien eu de secret.
Autre organisation internationale suspectée d'être synarchique ?
Le fameux forum de Davos que les militants anti-mondialisation contestent régulièrement.
Attends, rassurez-moi, la José Bové ne croit tout de même pas que Raymond Barre, qui fréquente assidûment ce forum de Davos, est un synarque, non ?
Non, José Bové est plus intelligent que cela, enfin je le pense. Mais c'est vrai qu'il existe toujours la tentation, et surtout en période de crise, quand les choses vont mal, de croire que des forces occultes agissent en secret. De ce seul point de vue, le mythe de la synarchie a beaucoup servi. Et en somme, les technocrates de Vichy ont aujourd'hui été remplacés par les énarques. Les critiques qu'on leur adresse sont de même nature que celles qu'on adressait autrefois aux amis polytechniciens de Jean Coutreau.
Ah, c'est bien une des premières fois que je vous entends prendre la défense de l'énarchie. Hein.
Parce que je pense qu'il y a des critiques trop faciles. Si les énarques ont aujourd'hui trop de pouvoir, c'est que nous l'avons bien voulu.
Oui, peut-être. Alors, quittons l'énarchie pour la synarchie. Fondamentalement, alors, vous pensez qu'elle n'a jamais existé ?
Ça me paraît évident. Et pour comprendre comment est né le mythe, il faut remonter à la genèse de cette affaire. C'est sous le régime de Vichy que les accusations contre la synarchie vont être les plus violentes. Les ministres technocrates sont montrés du doigt. La banque Worms s'est accusée. Des documents mirobolants comme le fameux pacte synarchique sont publiés.
Info.
C'est certain.
Ouais.
Qui attaque la prétendue synarchie ? Les collabos, les plus notoires, les plus extrémistes. Qui sont pour la plupart d'anciens cagoulards ? Des gens qui réclament à cor et à cri le départ du chef du gouvernement, l'amiral Darlan, et le retour de Pierre Laval évincé en décembre 1940. Or, c'est seulement 6 mois après le départ de ce dernier que l'affaire de la synarchie éclate. Intéressant, non?
Parce que vous pensez que Pierre Laval aurait pu téléguider cette manipulation?
Ben, j'en suis persuadé, oui. Lui, enfin, ou son très proche entourage. Enfin, c'est la même chose. Le soi-disant pacte synarchique a été inventé de toutes pièces à partir de cette vieille lune inventée par le marquis Saint-Yves d'Alvèdre et par l'intermédiaire des collabos qui travaillaient donc dans les services qui traquaient les sociétés secrètes. Il est parvenu opportunément dans les mains du docteur Martin. Avec Méphisto, comme l'on le surnommait toujours, on ne pouvait trouver de meilleurs vecteurs pour propager la rumeur du complot.
Parce que ce comploteur né, hein, comme vous l'avez décrit, lui, il était naturellement porté à croire à l'existence d'une organisation clandestine et conspiratrice.
Exactement. Il était convaincu, lui. Et il a mis tout son talent à faire partager sa croyance. Je vous rappelle que c'est lui qui a convaincu Pétain de la pseudo-machination synarchique. Et notez-le bien, dès le mois d'avril 1942, Laval reviendra au pouvoir.
Ah ben, la manipulation a donc fonctionné, alors.
Oui, mais ce que ses auteurs n'avaient sans doute pas prévu, c'est qu'elle aurait une descendance aussi prolifique qu'imaginaire.
Roger Faligo et Rémy Coffer ont publié chez Fayard en 1995 un livre intitulé « Le marché du diable ». Ils y parlent longuement de la synarchie à laquelle eux non plus ne croient guère. Mais, comme l'a dit M. X, certains persistent à penser qu'elle est toujours vivante. Par exemple, un nommé Henri Coston qui fit carrière sous Vichy et écrit ceci en 1977. La commission trilatérale, créée en 1973 par le banquier américain David Rockefeller, de la richissime famille bien connue, est une organisation internationale de financiers, d'hommes d'affaires et de politiciens qui cherchent à prendre en main les destinées du monde occidental et du Japon. Regroupant les hommes qui comptent, du moins ceux qui sont jugés capables de comprendre un grand dessein et de travailler à sa réalisation, elle entend se servir du système démocratique pour arriver à ses fins. Mais elle estime que les démocraties occidentales tendent à devenir ingouvernables. Et je vous rappelle, signé également par Rémy Coffer, la parution au Seuil d'un livre indispensable sur l'histoire de l'OAS. Une anecdote pour finir. Après la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'enquête judiciaire sur la synarchie, le maréchal Pétain est interrogé dans sa cellule. Et voici ce qu'il répond, non sans humour, au magistrat. Quand quelque chose marchait mal à Vichy, on me soufflait, c'est un coup de la synarchie. Il pleut, c'est la synarchie. Dites, monsieur le juge, vous savez ce que c'est, vous, la synarchie ?